Oui, vol encore un vol d'identité chez Desjardins. Au moment où, quand vous feuilletez les pages de vos quotidiens préférés, il y a une pub de Desjardins aujourd'hui. Toute une page de publicité où on nous dit que votre protection, c'est notre priorité, offerte à tous nos membres et clients. On a à cœur l'intérêt de nos membres et de nos clients. C'est pourquoi la protection Desjardins a été mise en place. Elle offre des mesures de protection pour tous les membres et les clients. Et on comprend plus aujourd'hui le sens de tous nos membres et clients, puisque finalement, c'est tous les membres et clients qui sont touchés, puisqu'on apprenait donc c'est plutôt 8 millions de personnes et non plus 4 millions et quelques qui sont touchés par ce vol d'identité. On l'a reçu à l'émission hier, mais comme, qu'est-ce que vous voulez, on en parle encore aujourd'hui. On s'est dit, rappelons Sylvain Paquette. Il avait été bon hier pour nous éclairer. Merci d'être là, Sylvain.
Merci, Isabelle.
Vous êtes président porte-parole du Bureau canadien du crédit, analyste en fraude. Bon, là, on apprend ce matin, finalement, que c'est 8 millions de Québécois à peu près qui se seraient fait voler, qui ont eu des cartes de crédit également, des assurances chez Desjardins, pas juste ceux qui avaient un compte, là, qui sont à risque, ça ne veut pas dire qu'ils ont été fraudés, mais qui sont à risque d'avoir été l'objet d'un vol de données par des fraudeurs.
Il ne faut pas être alarmiste. Hein. C'est 8 millions sur 28 millions de Canadiens cette année. Mais évidemment, les consommateurs ont quand même un devoir de prévention à faire pour se protéger puis être à l'affût de toute information susceptible de laisser croire là, qu'ils sont peut-être victimes d'un vol d'identité ou d'une fraude.
Vous dites, c'est à nous de dire si on pense avoir été fraudé, c'est ça que vous voulez dire, Sylvain?
En fait, il faut surveiller nos comptes de banque, il faut surveiller les accès sur nos téléphones. Par exemple, les courriels qu'on reçoit, est-ce qu'on va se connecter sur des liens inconnus ou est-ce qu'on... Si par exemple, quelqu'un vous envoie une photo ou une vidéo que ça fait 3 ans, vous ne lui avez pas parlé, de grâce, n'allez pas cliquer sur le lien, là, ça peut être dangereux. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération pour se protéger.
Êtes-vous surpris de voir qu'aujourd'hui, parce qu'au début, on a dit, le 20 juin, Desjardins a dit, bien, il y a à peu près 3 millions de clients dont les informations personnelles, nom, adresse, date de naissance, numéro d'assurance sociale, qui ont pu être l'objet d'un vol de données par cet employé, donc, de Desjardins à l'interne, c'est donc quelqu'un à l'interne, qui a utilisé ces informations-là comptent pour les vendre à d'autres réseaux, compte des cartes cadeaux en plus, c'est épouvantable. Un seul gars qui a fait ça. Le 1er novembre, on apprenait que c'était finalement pas 3 millions, mais 4,4 millions de clients. En fait, tous ceux qui avaient un compte personnel chez Desjardins, on disait peut-être que les... On supputait que peut-être les comptes d'affaires aussi étaient touchés. Puis là, aujourd'hui, bon, on apprend que c'est 8,2 millions de clients, cartes de crédit. Et assurance, on les a mis également dedans, à peu près 2 millions de personnes qui ont des assurances Desjardins. Ça fait beaucoup de monde. Comment ça se fait qu'on apprend ça au compte-gouttes?
Fallait s'y attendre, puisque aujourd'hui, il n'y a aucune institution financière ou entreprise qui est à l'abri d'un employé malveillant. Donc, ça aurait pu arriver dans n'importe quelle entreprise. Et au Québec, on est quand même assez en retard en termes de cybersécurité. Donc, fallait s'y attendre que ça arrive, là, c'était une question de temps.
Et comme vous dites, on est assez en retard comparativement à qui, par exemple, aux Américains, aux Européens?
Entre autres, aux Européens, aux Américains, oui. C'est juste qu'ici, c'est un phénomène qui est assez nouveau, la fraude par la cybercriminalité. Là. Ça fait quelques années seulement, mais déjà ailleurs, en Europe ou aux États-Unis, c'était quelque chose qui était très fréquent.
Et comment ils font? Comment ils ont répondu à ce problème-là, s'ils ont de l'avance sur nous? Là? C'est quoi leur méthode aux États-Unis, par exemple?
Pour les fraudeurs, sachant que des institutions ou des compagnies d'assurance offrent des produits de surveillance de crédit ou des produits d'assistance, bien, ça fait en sorte que le consommateur se sent plus en sécurité, il va être plus négligent, va faire moins attention, puisqu'il va se dire, bien, je suis déjà assuré. Mm-hmm. Donc ça rouvre une porte aux fraudeurs, évidemment.
Alors qu'aux États-Unis, c'est genre, occupe-toi de tes affaires, sinon on ne te remboursera pas. Fait que donc, les gens sont plus...
C'est un peu ça,
fait que c'est pas qu'il y a un meilleur système, c'est juste que les gens savent qu'ils doivent s'occuper de leurs affaires, sinon c'est eux qui vont être responsables.
Si vous allez sur le site, par exemple, Kaspersky Map, en tapant ça sur Google, vous allez voir une planète avec toutes les cyberattaques en temps réel. Et vous allez voir que principalement, là, les États-Unis et l'Europe, là, c'est les cibles premières là, de tous les cyberattaques qu'il peut y avoir.
Mais moi, ce qui me fascine, c'est qu'on le disait, là, c'est un gars qui travaillait pour Desjardins. D'ailleurs, au moment où on se parle, il me semble qu'il n'a pas été accusé de quoi que ce soit encore. Là.
Non.
Ce qui est assez fascinant quand même. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon, ça a l'air que la police a probablement besoin de parfaire son enquête. il doit manquer certaines infos. Mais c'est quand même assez fascinant de voir qu'une seule personne, une pomme pourrie, fait autant de dégâts. Là, là aujourd'hui, c'est tous les Québécois sont inquiets. Les gens qui fonctionnent avec Desjardins hors Québec aussi. Là, c'est, on dit 8,2 millions de clients d'assurance, de cartes de crédit, de comptes bancaires de Desjardins. Je veux dire, ça entache énormément l'institution. Un gars qui a fait ça!
C'est des dommages considérables envers Desjardins. Et c'est triste, c'est malheureux, mais c'est pas parce que c'est Desjardins, mais ça aurait pu arriver. Et c'est arrivé dans d'autres institutions financières, mais ils en ont juste pas parlé ou ça n'a pas été mis sur la sellette.
Mais une personne.
Un employé, oui. Un seul employé peut détruire une entreprise. Du moment que la personne a accès à des données sensibles, elle peut causer beaucoup de grabuge.
Hier, on se parlait, vous et moi, là, des fraudes sur le téléphone cellulaire. Mmh. Beaucoup de gens étaient inquiets de se faire frauder toutes sortes de choses sur leur téléphone cellulaire. On a même, on se souvient que vous nous aviez même dit, là, regardez, faites attention, cliquez pas sur rien, aucun lien qui vous reçoit, que vous recevez via téléphone. Si quelqu'un vous appelle, que vous reconnaissez pas le numéro, bref, vous nous avez conseillé, entre autres, de ne pas engager de conversation aussi avec des gens qui nous appellent puis qu'on sait pas trop qui c'est. Mais là, aujourd'hui, on disait, entre autres, qu'hier, il y avait des joueurs de hockey du Canadien. Il y avait Véronique Cloutier, entre autres, qui s'était fait frauder, qui s'était fait usurper, donc, ses données via son cellulaire. Aujourd'hui, elle semble dire que c'était pas de l'hameçonnage, véritablement, que c'était autre chose. Et ce que je comprends entre les lignes là, de Véronique Cloutier, c'est qu'elle semble dire que c'était beaucoup plus complexe que ça. Mais je me demande si c'est pas une personne qui a accès chez un fournisseur de compagnie de cellulaire.
C'est quelque chose de très plausible, puisque le crime organisé vont s'infiltrer dans différents milieux. Nous, par exemple, notre milieu où on travaille le plus, c'est le domaine de l'immobilier et les prêts hypothécaires. Et on voit le crime organisé se sont infiltrés dans ce milieu-là. Donc, ils vont... Et ça, je peux vous donner l'exemple là, de ce que les corps de police vont enseigner, là, qu'il y a... Il y a un ADN qu'on pourrait dire qui s'applique à tous les fraudeurs. Donc, le modus operandi qui est toujours le même. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord cibler un secteur d'industrie. Par exemple, dans notre cas, nous, c'est le monde hypothécaire. Ensuite, ils vont aller étudier ce domaine-là. Donc, ils vont aller suivre des formations. Ils vont peut-être même suivre un cours d'agent immobilier ou de courtier hypothécaire. Ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, qu'ils ont bien étudié le marché, ils vont trouver la faille dans le marché. Une fois qu'ils ont trouvé la faille, qu'ils l'ont identifiée, ils vont se créer des contacts, ils vont se recruter une équipe et ensuite, ils vont déjouer cette faille-là puis profiter de ça en faisant de l'argent. Donc, c'est comme ça partout à travers le monde. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, le fait que aussi que les assureurs ou que les institutions vont offrir des produits pour protéger le consommateur, mais la faille, elle est où? Elle est que le consommateur va être moins prudent parce qu'il va se dire, ah, ben, Desjardins paye tout, c'est pas grave, j'ai pas besoin de m'inscrire à Equifax, ils vont payer de toute façon. Erreur, faut pas faire ça. Le consommateur a quand même une responsabilité là-dedans à prendre qui est importante.
Ouais, on va revenir là-dessus sur notre responsabilité, ce qu'on doit faire aussi, mais je reviens quand même au fait que quand il y a quelqu'un qui est malveillant, ça peut être un virus, là, malveillant, mais ça peut être une personne aussi ou un ticlin qui réfléchit pas puis qui se dit, tiens, moi, me faire des cartes cadeaux avant Noël. Je vais vendre les données de millions de Québécois. Il faut vraiment être innocent. Il y a plein de questions aussi qui tournent autour de ça. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable ou qu'on veut pas pour le moment porter des accusations? Comment ça se fait aussi que les institutions bancaires sont fragiles par rapport à leurs employés aussi? Là? N'importe qui, on le disait, là, que ce soit des policiers qui vérifient avec ton permis de conduire, ton dossier, que ce soit des gens de Revenu Québec aussi qui décident d'aller voir combien tu fais d'argent. On n'est pas à l'abri de ça. Là. N'importe qui, dans une entreprise qui a accès à des données publiques de citoyens, peut décider d'aller checker, voire pour le fun. Mais ça, comment se protéger de ça? On va en parler après la pause, mais surtout, je vous donne nos numéros pour participer à la discussion. Vous faites dans la grande région de Montréal le 514-790-9850 et sans frais partout au Québec le 1-866-790-9850. Je vous demande si vous craignez que des fraudeurs utilisent ces données, que ce soit votre numéro de carte de crédit, que ce soit vos informations via un contrat d'assurance que vous ayez pu signer chez Desjardins. On vous parle tout de suite après. Bien, encore vol d'identité chez Desjardins dans l'actualité aujourd'hui parce qu'on apprend finalement que la liste des clients touchés s'allonge encore et là, on est rendu à 8,2 millions de clients de Desjardins. C'est ce qu'a annoncé la banque, des détenteurs de cartes de crédit et aussi 2 millions de clients d'assurance qui font maintenant partie de ce plan de protection qui a été mis en place par Desjardins. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent là, sur isabelle@985fm.ca puis qui me disent que ça n'a pas été simple de les joindre. Il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences jusqu'à maintenant là, par rapport à la couverture que promet de vous donner Desjardins si vous êtes parmi les fraudés. On est avec nous Marc. Bonjour Marc. Vous pouvez nous joindre hein, d'ailleurs. Vous pouvez
bonjour,
m'appeler.
Isabelle.
514-790-9850. Marc, vous êtes livreur puis vous me dites que de temps en temps, on vous demande de montrer votre permis de conduire quand vous voulez rentrer quelque part.
Ouais, ben il y a plusieurs endroits où ce que des centres de réparation de camions, des cours de transport comme ça. Puis il y a plus de gardien physique. C'est rendu une caméra. Tu arrives sur le bord 1, il parle juste en anglais. Puis il te demande de mettre ton permis de conduire devant la caméra des deux côtés pour qu'il puisse valider que tu es bien la personne. Tu dis écoute, moi j'ai une carte pour de sécurité pour rentrer au port de Montréal, c'est une carte indépendante. Je dis non, je ne montre pas mon permis de conduire. Avec tous les vols, puis en plus j'étais client chez Desjardins, j'ai Capital One. On a nos assurances vie avec la personnelle. Fait que la garde, oublie ça. Là.
Vous avez le combo, Marc, ouais.
Ah, j'ai le combo total.
Et là, donc vous faites là, quoi? Est-ce que vous le montrez votre permis ou vous le montrez
non,
pas?
Non, j'ai dit non. J'ai dit, garde, si tu veux pas. Là, ce que j'ai fait, j'ai monté ma carte du port de Montréal. Ah, ils disent, OK, celle-là, je vais l'accepter. Hey, OK, c'est beau. Là, à un moment donné, j'ai dit au dispatch, j'ai dit, regarde, là, soit qu'il nous donne un code pour rentrer, ou ben non, moi, je laisse coller à l'entrée, il viendra le chercher, ou ben non, regarde, il ira au magasin lui-même. Il n'est pas question que je montre mon permis de conduire. Permis de conduire, si c'est un policier qui me demande, pas de problème. Mais à part de ça, non, il n'y a personne qui va le voir.
Bien, vous avez bien raison. Tout à fait, tout à fait. Sylvain Paquette est avec moi. Il est porte-parole du Bureau canadien du crédit, analyste en fraude. Sylvain? Il a raison, Marc, d'intervenir.
Il a tout à fait raison. Nous, on a même déposé une pétition à l'Assemblée nationale pour demander à ce qu'on ait une carte d'identité provinciale qui pourrait être émise, par exemple, par le directeur de l'État civil avec empreinte digitale. Et cette carte-là pourrait être obtenue de façon volontaire, un peu comme la carte Nexus qu'on utilise là, pour les douanes. Et avec cette carte-là, on pourrait mettre, par exemple, un message sur le dossier de crédit qui dit « On exige lorsque on octroie un instrument de crédit dans une institution financière que le client se présente en succursale et valide son identité avec ça et un NIP. Donc ça viendrait sécuriser. Et cette carte d'identité-là pourrait servir à plein d'autres fins d'identification, comme le cas de monsieur, par exemple. Parce que le permis de conduire, là, c'est pas nécessairement... C'est facile à trafiquer. Hein. On peut s'en procurer des faux sur le dark web pour environ 50 $. Donc, c'est pas une pièce d'identité parfaitement sécuritaire.
Ah, tout à fait. Des fausses cartes, il y en a plein. Là. Demandez aux ados. Là,
oui, ils sont bons là-dedans.
Et 16, 17 ans, il n'y a pas grand monde qui n'a pas de carte. Là. Puis c'est à peu près ça, 50, 60 $ à peu près. Claudine, bonjour.
Eh bien, bonjour, bonne journée à vous. Ben moi, comme je disais à votre recherchiste, juste ce matin, ça fait deux appels que j'ai. C'est boîte vocale juste en anglais. Ça vient là d'un code régional qu'on connaît pas. Puis là, ça demande là de rentrer les chiffres et pour sécuriser nos cartes de crédit Visa Desjardins. Ah, là, moi, je viens de communiquer avec Desjardins. J'ai dit, écoutez, j'ai dit, moi, j'ai jamais été capable d'avoir la ligne là à Equifax. J'ai dit, pouvez-vous vérifier pour moi? Puis bon.
Est-ce qu'ils ont été corrects, Desjardins, ce matin? Vous avez parlé à qui?
Ils ont été super gentils.
Ouais,
bon. Ils m'ont même transféré à quelqu'un, je veux dire, là, qui connaît encore plus ça que lui. Puis, ils m'ont expliqué comment faire. Puis, ils m'ont dit, comme on dit, je suis très, très satisfaite.
Bon.
Mais c'est énervant. Je vais t'avouer que ça nous stresse.
Mais tout à fait. Puis, donc, ils vous ont conseillé de faire quoi, Claudine?
Ben écoute, ce que je fais... Moi, là, j'écoute le message, puis je raccroche. Il n'y a pas de danger que je vais peser sur aucun piton, aucun chiffre.
Exact, c'est ce que nous dit...
Ça fait juste en anglais, en plus.
Ouais.
Ben, qu'on s'entend-tu que ça ne vient pas hein, de Visa.
Ouais. Merci, Claudine.
Merci, bonne journée.
Ça, c'est important, Sylvain, de le dire, hein, ces appels-là. Là.
Oui, il faut absolument raccrocher. Il ne faut surtout pas tenter de narguer le fraudeur. Là. Donc, on raccroche, on s'en occupe pas. Puis, moi, j'en ai eu des appels comme ça.
En fait,
ça,
on
ne
décroche pas. Quand on voit que c'est un numéro comme ça, avec un code postal improbable ou qu'on ne reconnaît pas. On a juste à ne pas décrocher, d'ailleurs.
Laissez-le aller sur la boîte vocale, puis si vous voyez que c'est quelqu'un que vous connaissez, vous rappelez. Mais encore là, les fraudeurs peuvent vous appeler avec des numéros que vous connaissez, des numéros de votre institution financière. Ils utilisent une application, que je ne donnerai pas le nom, malheureusement, mais c'est une application qui avait été créée au départ pour les conjoints fidèles, pour masquer la provenance de l'appel, mais les fraudeurs ont utilisé cette faille-là pour des fins de fraude, évidemment. Donc, ils peuvent vous appeler avec le numéro de votre caisse ou de votre institution financière ou même de votre employeur.
Ah oui, tout à fait. Patrick, bonjour.
Bonjour, Isabelle.
On vous écoute, Patrick.
Alors, moi, j'aimerais juste rajouter pour le gars qui se fait payer avec ses cartes cadeaux, là.
Oui.
Est-ce que la police ou les enquêteurs sont allés voir plus loin, à savoir si ce gars-là n'aurait pas un compte Bitcoin ou quelque chose comme ça à l'extérieur et que ce ne serait pas fait plutôt payer en Bitcoin?
Bien, c'est possible. Et, tout est possible.
Et pourquoi aussi, les gens, on va dire, qui lui achetaient ça encore, pourquoi on n'a pas eu encore l'information à savoir qui sont ces gens d'assurance-là ou quelque chose comme ça qui demandent des trucs comme ça à pour qu'eux soient radiés aussi de leur profession, parce qu'ils embarquent là-dedans aussi. Là. Et un autre truc, ce serait peut-être temps de changer la façon de la sécurité là, ici, à savoir peut-être comme en Chine, là, reconnaissance faciale sur les guichets ou les téléphones. Ou
mais
l'œil,
où il y a plusieurs, digital, effectivement.
Mais pas juste le numéro d'assurance sociale qui date des années 40. Là,
mais d'ailleurs, Patrick, là-dessus, apparemment que le gouvernement du Québec réfléchit à une espèce de nouvelle identité numérique, là, une carte qui serait notre identifiant numérique, mais je ne sais pas ce que Sylvain Paquette vous en pensez de ça. Mais...
C'est sûr que ça va diminuer les fraudes, mais les fraudeurs, c'est des maîtres dans l'art de trouver la faille. Donc, ils vont trouver la faille à ça, puis ils vont réussir à la contourner. Ça va prendre un certain temps. C'est pas infaillible, c'est très bon, c'est une bonne idée. Je pense que ça diminuerait les fraudes de peut-être 80 % mais ça reste que les fraudeurs vont toujours... Il va toujours en avoir, là. Ça vient de la Rome antique, ça vient d'aussi loin. Donc,
puis
ils vont
c'est toujours
s'adapter.
Géré par du monde. Tant que ça va être géré par des humains, si l'identité, la nouvelle identité numérique qui serait créée est gérée par des humains quelque part, il y a toujours un gars quelque part qui va vouloir s'échanger des cartes cadeaux ou vouloir accepter de l'argent frauduleux comme ça pour tirer parti des données auxquelles il a accès.
Exactement.
Il y en aura
toujours.
Pas, là.
Il y en aura toujours. Mais si on peut au moins les décourager, comme nous, dans la pétition qu'on a déposée à l'Assemblée nationale, on a demandé que les fraudeurs, parce qu'il y en a beaucoup des fraudeurs qui sont ici, hein, ça ne vient pas toujours de d'autres pays, mais on a demandé que les fraudeurs soient reconnus, qu'ils soient tenus responsables de rembourser les victimes. Et s'ils ne sont pas dans la mesure de le faire, bien, ils vont avoir une peine d'emprisonnement plus longue. Ça, jusque-là, ça va. Le problème qu'on a en ce moment dans la société, c'est que les forces policières n'ont pas assez d'effectifs et de moyens pour être capables de les coincer, ces fraudeurs-là. En ce moment, nous, on accompagne deux groupes de victimes de fraude, l'affaire Lavaganza Wanland et l'affaire Mario Goyette. Et ces deux fraudeurs-là, ça fait 2 ans que les plaintes sont déposées, mais la police n'a pas pu encore enquêter.
Mais comment ça se fait?
Question de coûts, question d'effectifs, je crois qu'ils sont submergés. Ils ont besoin d'aide, évidemment. Donc, le gouvernement doit, à mon avis, débloquer des fonds pour créer des unités spéciales pour enquêter là-dessus.
Mais non, mais là, c'est compliqué, là.
Parce que les fraudeurs, comme j'expliquais hier, il y a une victime sur 5, sur 20, pardon, qui porte plainte seulement. Donc, puisque pas les victimes ne portent pas plainte, mais les autorités, ils peuvent pas réunir peut-être les budgets pour être en mesure de faire ces enquêtes-là, puis mettre les effectifs nécessaires. Donc, il faut que les gens dénoncent, puis il faut que le gouvernement intervienne aussi pour débloquer des fonds pour les forces policières.
Mais dans ce cas-ci, puis là, on connaît pas l'histoire, là, mais on connaît le gars, on sait son nom. Il a même déjà expliqué qu'il se rendait pas compte que ça allait faire autant de dommages auprès des clients de Desjardins, là, celui qui a pris les données de Desjardins cet été. Il a vraiment l'air... Ou il joue à l'innocent, ou il est vraiment solide. Là. Mais après, peut-être qu'il a négocié quelque chose avec les forces policières. Comme je vous dis, on ne sait pas trop, mais je trouve ça quand même assez incroyable qu'il n'y ait pas d'accusation de portée. Là.
Je pense que l'enquête policière n'est juste pas terminée.
Mais j'espère que ça va... Tu sais, parce qu'on est là, on promet beaucoup de... On va être redevables. On nous dit à nous, soyez responsables de vos affaires. Je veux bien, mais il faut aussi qu'on montre que quand on en pogne un, fraudeur, il y a des véritables conséquences. Là. On va s'arrêter ici. Très courte pause, bien sûr. Nos numéros 514-790-9850. Dites-moi si ça vous inquiète vraiment. Là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que finalement, tous ceux qui ont un compte chez Desjardins, une carte de crédit Desjardins, une assurance Desjardins, vous êtes peut-être à risque de vous être fait prendre votre identité ou vos données. Il y a une protection toutefois qui est offerte à tous les membres et clients de Desjardins. On nous le rappelle aujourd'hui, il y a une grande pub de Desjardins, entre autres dans les journaux. Dites-moi si ça vous inquiète et si vous avez déjà eu des mailles à partir avec certains fraudeurs, bien sûr. On veut connaître votre histoire. À tout de suite. On s'intéresse, bien sûr, à la fraude générale, le vol de données chez Desjardins. Vous avez vu, 8,2 millions de clients, là, finalement, c'est confirmé ce matin. On est parti de 2,9, c'est passé à 4,4, puis là, c'est rendu à 8,2, puis on espère que ça va s'arrêter là. Parce que je pense que ça concerne tout le monde qui a déjà eu un compte chez Desjardins. Beaucoup de questions par rapport à ceux qui en avaient un, Sylvain Paquette, puis qui en ont plus, qui l'ont fermé. Sont-ils, eux aussi, à risque, d'après vous?
Mais s'ils sont plus membres chez Desjardins, je crois que... Oui, ils pourraient être à risque aussi, mais...
Si leurs données sont toujours dans le système.
Effectivement.
Donc, vérifiez ça. Hein. On a avec nous Sylvie. Bonjour, Sylvie.
Oui, bonjour. J'ai deux questions pour, en fait, un conseil pour monsieur. Est-ce que j'ai été fraudée, Capital One et puis TransUnion, j'ai reçu un code d'accès, tout ça. Quand j'ai fait le processus et tout, ça te dit, je n'étais pas la bonne personne. J'ai appelé TransUnion. Je fais ça le plus vite possible. On me dit que c'est ma date de naissance après plusieurs petites questions, en tout cas. Et c'est la journée de ma date de naissance qui n'est pas bonne. Qu'est-ce que je dois envoyer comme pièce d'identification? Assurance maladie, permis de conduire, passeport, je pense pas parce que c'est trop détaillé. Certificat de naissance, et puis je préfère le retourner par poste recommandé. Quel est votre...
Êtes-vous sûr d'abord que vous parlez à Capital One et TransUnion?
Bien, j'ai parlé à TransUnion.
Au téléphone?
J'ai reçu mon rapport, j'ai reçu mon rapport détaillé et puis c'est bien vrai, la date, la journée n'est pas la même. Il y a une erreur d'une journée.
Oui. Bien, pour modifier ça, il faut demander ce qu'on appelle une demande de rectification et fournir à ce moment-là une affidavit. Peut-être faite par un notaire ou un avocat ou de vous-même, dans lesquels vous êtes identifié et que une personne vous a assermenté et envoyé ça chez TransUnion. Et fournir aussi d'autres pièces, comme par exemple un compte de téléphone qui démontre que vous êtes bien à cette adresse-là et d'autres comptes là, qui peuvent aussi être apportés.
Dans ce cas-ci, c'est sa date de naissance. Mais ça serait une erreur manuelle, vous pensez, Sylvie? Quelqu'un a mal rentré votre date de naissance?
Je l'ai posé la question, puis ils disent que c'est peut-être les institutions financières qui ont donné une mauvaise information, mais c'est pas vrai parce que, d'après moi, parce qu'avec Equifax, tout est correct.
Ouais.
Là, c'est possible que ce soit effectivement une institution financière parce que dans le credit reporting, il se fait énormément d'erreurs dans les transferts de données. Donc oui, c'est très possible.
Donc, mais c'est TransUnion aussi qui a peut-être mal recopié son adresse là, ou son numéro de...
Mais TransUnion vont rapporter l'information qui leur est fournie par les institutions financières. C'est un petit peu comme un perroquet, ils font juste répéter. Donc, eux, ils n'ont pas nécessairement... c'est pas eux qui ont commis l'erreur, c'est une institution qui l'a rapporté lors d'un transfert de données.
En même temps, merci Sylvie, bonne chance. En même temps, là, comprenez-vous ça, Sylvain Paquette, que Equifax et TransUnion, qui sont deux entreprises privées, vont bénéficier des largesses du programme de Desjardins. Dans ce cas-ci, je lisais ce matin là, qu'on prévoit qu'il y a à peu près 70 millions de dollars qui sont prévus par Desjardins là, pour couvrir les frais de l'incident, là, de tout ce vol de données. On évalue, puis on dit, bon, ça va servir à payer les frais juridiques. L'ensemble des ententes de protection avec les firmes de crédit Equifax et TransUnion, ce que je comprends, là, c'est que sur 70 millions, il y en a à peu près la moitié qui vont aller à Equifax et TransUnion, non pas aux clients de Desjardins fraudés, mais bien à ces deux entreprises-là qui sont des entreprises privées et qui, on ne le sait pas pourquoi, expliquez-le-moi pourquoi, ces deux entreprises-là ont droit de vie et de mort sur notre capacité à avoir du crédit. Des entreprises privées. Comment se fait que ce n'est pas un gouvernement qui gère ça? Bon, pour inspirer... Là, on voit que même quand c'est des grandes entreprises comme Desjardins, ça peut, il peut y avoir des accidents. Là. Mais comment se fait que c'est Equifax puis TransUnion là, qui ont le droit de gérer ça, là, qui sont perçus comme étant, alors qu'elles ont été fraudées elles-mêmes, là, comme étant hors de tout doute raisonnable, là, les meilleurs, les plus habilités, puis payés grassement d'ailleurs?
Mais c'est juste que dans l'histoire au Québec ou comme au Canada, il n'y a personne qui a vraiment pris cette place-là. Et oui, ça aurait dû être au gouvernement à gérer ça, mais puisque les banques, ça relève aussi de l'entreprise privée et beaucoup d'institutions privées, de compagnies de finances, je vous dirais qu'à travers le temps, ces institutions-là, comme Equifax et TransUnion, ont offert des services de pointage et d'analyse et de prédicteurs de risque aux institutions financières. Et les institutions en sont devenues un petit peu comme en otage. Donc, ils sont...
Mais nous aussi.
Oui, nous aussi, là, par rebondissement. Mais ils sont un petit peu... Et il faut dire quand même, moi, je connais très bien ces deux agences-là. Et je donne des formations sur comment lire, interpréter les dossiers de crédit, les différents algorithmes, les pointages qui existent. Et chacun a une spécialité. Comme TransUnion, par exemple, ils ont des données qui remontent depuis 1990. Alors, lorsqu'on va consulter le dossier de crédit, on peut avoir une image beaucoup plus loin dans le temps, alors qu'Equifax, eux, ils vont garder les 6 dernières années. Mais par contre, leur pointage qu'ils offrent aux institutions sont très performants. Donc, ils servent à prédire le risque de délinquance et le risque de faillite, évidemment. Donc, les institutions, dans certains cas, vont préférer travailler avec Equifax, d'autres avec TransUnion ou des fois même avec les deux. Alors, comme il n'y a pas personne qui a pris ce marché-là, bien, c'est resté un marché fermé, hermétique. Et c'est pour ça qu'Equifax et TransUnion ont pris toute la place, mais ils sont là quand même depuis longtemps. Si on parle de Equifax quand ils ont commencé, c'était en 1899. Là, donc, ils ne portaient pas ce nom-là quand ça a commencé, mais c'était comme ça.
Oui, mais il faudrait les surveiller, ces deux-là aussi.
Oui.
Pas ça quand c'est des entreprises privées qui ont le monopole sur nos données. Mais. Merci beaucoup, Sylvain Paquette. C'est sûr qu'on va se reparler parce que visiblement, on apprend tous les jours dans le Code Desjardins. Sylvain Paquette est porte-parole et président du Bureau canadien du crédit. Il est analyste en fraude. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. On va parler un peu des tentatives pour attirer des gros producteurs américains à venir travailler au Québec. Vous avez vu le premier ministre François Legault qui est en voyage en Californie. On en parle tout de suite après avec la productrice Denise Robert et avec M. Goudzo, destiné Goudzo.